Sell off en bourse depuis le 28 février dernier, depuis le début des opérations militaires le 28 février dernier. À partir de quand revenir à l'achat sur les actifs risqués en bourse? Alors que l'actualité géopolitique évolue chaque jour, chaque heure, pire, les déclarations changent d'une minute à l'autre, d'un camp à l'autre. Nous n'avons pas la même musique, nous n'avons pas la même chanson. Guerre, opération militaire, perspective de cesser le feu, accord, pas accord, accord de paix, médiation. Bon. Je vous donne une grille de lecture fixe qui sera valable, dont le contenu sera valable quelle que soit l'évolution de la situation géopolitique, ce début de semaine, à la fin de la semaine, les prochaines semaines. Première partie, bourse, bilan. Quel bilan au sein de toutes les classes d'actifs depuis le cours de clôture du vendredi 27 février 2026. Et vous allez voir qu'il y a des surprises. Deuxième partie, stress géopolitique. Alors que les déclarations des uns et des autres alimente soit le pessimisme, soit l'optimisme. Comment concrètement mesurer avec des outils de marché l'évolution du sentiment, de la peur, de la juste mesure, de la peur géopolitique? Comment se projeter sur différentes thématiques géopolitiques? Vous allez voir que, eh bien, en bourse, il y a des paris qui se font sur tout. Troisième partie, les conditions fondamentales à réunir, les bonnes questions fondamentales à se poser avant de revenir à l'achat. Et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas seulement d'envisager la fin du conflit. L'après sera très important. Les bonnes questions fondamentales à se poser. Quatrième partie, quand revenir à l'achat sur les actifs risqués en bourse, sur le plan de l'analyse technique? Quels sont les signaux techniques vitaux à obtenir avant de reprendre sa part de cash qui a augmenté dans vos portefeuilles, forcément, et de la redistribuer sur des classes d'actifs plus risquées? Sell off en bourse depuis le 28 février 2026. Peut-on et quand revenir à l'achat? Bienvenue, nouvelle édition du Top Gun.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Sell off en bourse depuis le 28 février. Quand revenir à l'achat sur le plan géopolitique, sur le plan fondamental, sur le plan technique? Quelles sont les bonnes questions à se poser sur l'ensemble de ces sujets qui seront déterminants? Les quatre parties, je vous les ai décrites à l'instant. Eh bien, c'est parti. Nous attaquons première partie, bourse, bilan, depuis le cours de clôture du vendredi 27 février 2026. Alors déjà, avant de regarder ce bilan, est-ce que vous imaginez, vous discutez avec un ami et puis il vous demande, voilà, qu'est-ce qui se passe en bourse depuis le début du conflit? Et même mon père, hein, qui s'investit pas en bourse, m'en parle. Même mon père m'a dit, j'en parlais avec lui, il me fait, l'or s'est effondré. Ah oui, c'est incroyable. Il me demande, Vincent, comment ça se passe avec tes activités de marché? L'or s'est effondré. Voilà, c'est... Moi, je regarde quasiment pas les médias d'information continue et généraliste, donc j'imagine que ça a communiqué sur... Mais effectivement, papa, père, mon cher père, a raison. Effectivement, vous avez sous les yeux un graphique qui expose la performance d'une sélection de toutes les classes d'actifs depuis le 27 février. Vous retrouvez tout en haut le gaz, plus 79%, le pétrole, plus 33%. Oh, surprise! Ethereum, plus 16. Bitcoin, plus 10. Les taux d'intérêt, plus 8, le 10 ans américain. Le dollar, plus 1. Et ensuite, dans le négatif, le Nasdaq, le S&P 500, les obligations, les small caps, le marché actions chinois, le DAX, le SMI, l'or et l'argent, entre moins 5 et moins 20 même pour l'argent. Donc effectivement, là, il y a déjà quelques surprises. Qu'est-ce que les cryptos font là? Bon, ben, en tout cas, elles y sont. Elles sont parmi les actifs qui ont le plus résisté depuis donc le début des opérations le 27 février dernier. Donc effectivement, ce que nous pouvons constater, c'est que depuis le début des opérations, eh bien, il y a eu, si vous voulez, peu d'endroits où se cacher, puisque vous avez à la fois un sell-off, vous avez eu un sell-off sur le marché actions, vous avez eu un sell-off sur le marché obligataire, vous avez eu un sell-off sur les métaux précieux. Finalement, ceux qui n'ont pas perdu d'argent, c'est ceux qui étaient positionnés sur les secteurs du marché actions profiteurs de guerre, j'en ai parlé la semaine dernière, et étonnamment, effectivement, donc les cryptos qui tiennent, en même temps, elles avaient déjà beaucoup baissé avant, puisque le drawdown du Bitcoin était de 50% avant, depuis son ATH, avant le déclenchement des opérations. Donc, ce premier bilan, il est quand même, montre que les actifs risqués, marché obligataire et marché action ont souffert. Actifs risqués, marché obligataire, c'est pas un actif risqué, marché action, oui, mais du fait de la remontée des taux d'intérêt. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand revenir à l'achat? Moi, j'estime qu'il y a trois angles d'attaque. Et faisons les choses calmement, sans se précipiter. Mettons-nous, positionnons-nous à l'opposé du fonctionnement des médias d'information continue, des déclarations des uns et des autres, des faux espoirs, des espoirs, des réalités concrètes. Bon. Un cirque géopolitique quotidien. Comment mesurer le stress géopolitique? La première condition, clairement. Comment, à partir de quand, revenir à l'achat massivement? Enfin, massivement, façon de parler. La première condition est naturellement un cessez-le-feu et une perspective d'accord de paix au Moyen-Orient. Ça, c'est la dimension géopolitique. Est-il raisonnable de commencer à se repositionner s'il n'y a pas au minimum cette condition? Alors, des négociations sont en cours. Non, il faudrait un vrai rapprochement de la partie américaine et de la partie iranienne pour envisager cela. Ça, c'est la condition première, je dirais. Mais vous allez voir qu'en fait, elle n'est absolument pas suffisante. Alors, je ne vais pas ici jouer aux oiseaux de mauvais augure et vous dire que dans tous les cas, c'est foutu et que même si ce conflit se termine, il y aura des dégâts collatéraux et peut-être même structurels qui vont durer un peu plus longtemps et qui peuvent mettre la pression sur les États-Unis. Ce n'est pas certain, justement. Nous allons voir les bonnes questions fondamentales à se poser. Mais effectivement, la première condition, c'est un cessez-le-feu, une perspective d'accord de paix. Alors, Vous avez pour ça, pour changer un peu des médias d'information continue, je vous invite à acheter un autre de temps en temps au site Polymarket. Alors, moi j'utilise ça comme des indicateurs de sentiment. Ce sont des données qui évoluent en permanence, ce sont des paris en fait, des paris géopolitiques. Par exemple, eh bien, vous voyez, l'évolution, alors ce sont des paris avec du vrai argent. Cesser le feu entre les États-Unis et l'Iran. À partir donc de quelle date, et vous allez voir les graphiques, le pourcentage évolue, le régime iranien va-t-il tomber, les États-Unis vont-ils prendre le contrôle de l'île de Karg, quand est-ce que Trump annoncera la fin des opérations militaires. Prenons l'exemple de la question, à partir de quand y aura-t-il un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien donc ça se présente comme ça, vous avez toutes les dates, prenez par exemple, y aura-t-il un cessez-le-feu au 31 mars, et ben quand j'enregistre la vidéo, la probabilité est de 18%. Mais vous voyez que la semaine dernière, à chaque fois que Trump a annoncé des choses allant dans le sens de la négociation, eh bien on montait autour des 25-30%. Vous avez maintenant devant nous, sur Polymarket, quelle est la probabilité d'un cessez-le-feu au 7 avril, la probabilité d'un cessez-le-feu au 15 avril, et puis vous pouvez suivre donc l'évolution du graphique. Effectivement, on peut voir que la probabilité d'un cessez-le-feu d'ici le 15 avril suit quand même depuis la fin du mois de mars une tendance haussière ici, bien construite avec des impulsions des retracements, mais tout de même une tendance haussière. Ou encore, par exemple ici, les États-Unis vont-ils prendre le contrôle de l'île de Karg, c'est le hub énergétique iranien, d'ici le 30 avril, d'ici le 31 mai, d'ici le 30 juin, bref, il y a tout un tas en fait, tout un tas de pronostics géopolitiques. C'est intéressant à regarder. Moi, je regarde ça comme des indicateurs de sentiment, comme des indicateurs de sentiment du marché. Donc, effectivement, difficile de revenir massivement à l'achat sans cette condition première, l'amélioration de la situation géopolitique. Mais ce n'est absolument pas suffisant. Une fois la perspective acquise d'un cessez-le-feu, voici les questions fondamentales à se poser avant de revenir à l'achat. Première question fondamentale, la production de pétrole et de gaz autour et dans le golfe Persique peut-elle reprendre rapidement? Oui, parce que déjà des installations énergétiques ont été visées. D'autres usines de gaz et de pétrole se sont mises à l'arrêt. Et si vous voulez, une usine, c'est pas un bouton de lumière. C'est pas un interrupteur de lumière. C'est pas on-off. J'éteins, j'allume. Mettre à l'arrêt une machine aussi énorme, Derrière, ça peut prendre des semaines pour la relancer à son rythme d'après. Ensuite, d'autre part, il va falloir que le transport maritime reprenne. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette production énergétique du Golfe, alors qui n'a pas cessé et qui est vraiment sur des niveaux bas, peut-elle reprendre et venir réapprovisionner l'Asie avant que les réserves stratégiques atteignent un niveau trop bas, sachant que ces réserves stratégiques, il va falloir les refaire. Ça, c'est déjà une question, la question qui vient tout de suite après un cessez-le-feu entre les États-Unis et Iran. Et ça me paraît vraiment décisif, en particulier l'approvisionnement de l'Asie, puisque je vous rappelle donc que 80 à 90% du pétrole et du gaz naturel liquéfié qui transite par les détroits d'Ormuz est à destination de l'Asie. Par exemple, le détroit représente 40% des approvisionnements en énergie de la Chine, 15% des approvisionnements, pardon, 38% de ce qui transite par le détroit va en Chine, 15% de ce qui transite par le détroit va en Inde, la Corée du Sud, enfin, ouais, c'est l'Asie. Le sujet, c'est l'Asie. Le sujet, c'est pas l'Europe. Le sujet, c'est l'Asie. Donc, ça, c'est majeur. C'est la première question fondamentale à se poser, sachant que, notamment en ce qui concerne l'Inde, et c'est pourquoi l'Inde a commencé à réimporter du pétrole indien, les réserves, le temps estimé avant la tension pétrolière, 128 jours pour la Chine. Alors là, le conflit a démarré le 28 février. Donc, nous sommes à plus d'un mois. Il y a de la marge encore pour certains pays. L'Inde, c'est déjà extrêmement compliqué, mais cette marge, elle peut s'éroder rapidement. D'autre part, d'ailleurs, il faut les reconstituer, les stocks. Donc, si vous voulez revenir, peut-on revenir à l'achat sur les actifs risqués en bourse? La vraie question, c'est est-ce que la durée du conflit, qui est celle à aujourd'hui, depuis le 28 février, n'est-ce pas trop tard? Peut-on faire machine arrière en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique en Asie, l'Asie étant le moteur de la croissance économique mondiale? Donc, vous voyez tout de suite, c'est la première question qui vient après l'amélioration des conditions géopolitiques pures. Et là encore, il y a du chemin à faire. Deuxième question fondamentale à se poser avant de revenir à l'achat. La navigation des supertankers peut-elle reprendre rapidement à partir des détroits d'Ormuz et à destination de l'Asie? Donc là, je vais vous présenter deux sites. Vous avez le site Tradewinds News, qui est vraiment un site dédié au transport maritime. C'est toute l'actualité notamment des supertankers. Je lis tous les jours leurs articles. Et depuis quasiment le début du conflit, vous n'imaginez pas le nombre d'articles que j'ai lus sur ce site, et marinetraffic.com, ça c'est le transport maritime en temps réel, j'y viens, vous n'imaginez pas le nombre d'articles que j'ai lus sur ce site qui expliquent, et vraiment des experts du domaine, quand bien même la machine énergétique se remet en place, derrière, pareil, le transport maritime, il faut le relancer. Il n'est pas certain que, d'ailleurs, l'association du transport maritime mondial, qui est basée à Londres, l'a dit. Les marins ne vont pas reprendre comme ça le trafic du jour au lendemain, tout sourire, super. Non, non. Et d'autre part, les conditions d'assurance ne sont plus les mêmes. Donc, tout ça va prendre du temps. Quand bien même la situation géopolitique s'améliore, à partir du jour 1, où vous avez un cessez-le-feu, une paix, ce que vous voulez, derrière, c'est des semaines encore pour remettre en route la machine énergétique, remettre en route la machine de transport. Donc, voilà, c'est la vraie question à se poser, c'est ce temps de remise en route va-t-il perturber l'économie mondiale, va-t-il perturber la croissance mondiale à travers les perturbations de l'approvisionnement en énergie de l'Asie, qui dit moins de croissance, forcément, ça pèse sur les actifs risqués en bourse. Alors justement, regardons deux sites qui sont ici, qui sont importants. Tout d'abord, je présente Tradewinds, qui est vraiment un site qui vous donne des informations en temps réel sur le transport maritime, alors en particulier donc tout ce qui se passe à travers le détroit d'Ormuz, et vous avez notamment ici une section sur les supertankers, et tous ces articles que je lis au quotidien vous expliquent, vous donnent en fait ce genre d'informations que vous n'avez pas dans les médias généralistes, où vous avez des articles qui vous expliquent que actuellement, le transport d'énergie via les supertankers dans le détroit est à son niveau le plus bas, ever, ever, ever. Tout ça ne peut que laisser des traces. D'ailleurs, la Corée du Sud, le Japon sont des pays qui tapent déjà dans leurs réserves stratégiques. Et vous avez vu, ce n'est pas des réserves de 3-4 ans. On est sur 3-4 mois. le conflit a déjà plus d'un mois. Donc, il y a des questions. La vraie question, c'est n'est-ce pas trop tard? Donc, d'abord, je vous invite à vous intéresser à ce site et notamment donc à la section sur les super tankers, puisque là, vous avez des informations qui arrivent régulièrement, tous les jours, et qui permettront de voir la réalité de la reprise du trafic lorsque les choses se seront améliorées. Ensuite, encore mieux, vous avez ici marinetraffic.com, le transport maritime en temps réel. Alors ça, c'est vraiment passionnant, et vous allez voir en fait concrètement ce qui passe. Donc là, je vais zoomer sur le détroit d'Ormuz, donc l'Iran est ici, Oman, les Émirats Arabes Unis, vous voyez, hein, toutes les villes qui se prennent des missiles, Abu Dhabi, Dubaï, etc. Voilà, donc, mais ça, même le Koweït se prend des missiles, le Qatar, Doha, bon, ils sont, voilà. Donc le Golfe Persique est ici, la côte iranienne est ici, le détroit est ici, voilà. Et donc, si vous voulez, déjà, on voit que il y a quasiment rien qui passe, il y a rien. Il y a un amas de bateaux qui bouge plus, qui est en attente. En temps normal, ici, là, c'est plein de bateaux. Alors, qui passe? Ça va être intéressant. Regardons ce bateau, par exemple. Tenez. Ah, ce bateau, regardons ses détails. Eh bien, il est chinois. Voilà. Alors, là, vous avez un bateau ici qui passe. Mais il est chinois. Voilà. Bon, mais ça, c'est parce que, voilà, certains bateaux peuvent encore passer. On sait que certains bateaux indiens passent, mais en payant donc un droit de passage aux autorités iraniennes. Enfin, il y a quand même des choses qui font que ça, ce sera vraiment, avant de revenir massivement à l'achat sur les actifs risqués en bourse, avant de se dire, ça y est, c'est le moment où je reviens à l'achat sur, je sais pas, le marché action indien, le marché action chinois, etc. Bon, il va falloir réobserver à travers le détroit des passages de super tankers chargés de gaz et de pétrole à destination de l'Asie. Il faudra regarder les choses concrètes. Donc, honnêtement, mettez ce site dans vos favoris, marinetraffic.com. Regardez le nombre de bateaux en attente ici, au large de Dubaï, Abu Dhabi, etc. Ça, c'est les bateaux coincés depuis le début du conflit. Hein. Bon. Donc là, nous avançons sur. Donc ça, c'est la deuxième question fondamentale qui est majeure. Troisième question fondamentale, les prix de l'énergie vont-ils rapidement revenir à leur niveau d'avant-crise et quelle contagion sur l'inflation globale? Bah oui, parce que. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Le prix de l'énergie. Donc, rappelez-vous ce que je vous avais expliqué. Le facteur temps est central. Rappelez-vous $80. Pourquoi $80? Parce que le prix du pétrole était inférieur à $80 en 2025. Donc, tout ce qui est au-dessus de $80 en 2026, c'est inflationniste. Au-dessus de 90, 92, c'est le choc inflationniste. Un vrai signe d'apaisement, ce serait de repasser sous $80. Nous savons qu'à partir de un mois au-dessus des 80, ça commence à avoir un effet modéré sur l'inflation. Pourquoi c'est important cette histoire d'inflation? Bah parce que derrière, si l'inflation se maintient, si l'inflation fait un vrai pump, derrière, les banques centrales pourront pas baisser les taux. Comment revenir massivement à l'achat si les banques centrales ne baissent plus les taux avant des mois, voire des années? Vous voyez, c'est pas possible. Par contre, la situation se tend si le pétrole se maintient au-dessus de $80 plus de 3 mois. Donc ça, il va falloir le regarder. Au-delà d'un cessez-le-feu, au-delà d'une paix, c'est comment va se comporter le prix du pétrole? Va-t-il repasser sous 80 ou pas? Combien de temps? Donc, quel impact sur l'inflation? Alors, sachant que l'inflation actuellement, donc le CPI aux États-Unis est à 2,4 en nominal, 2,5 en sous-jacent. Il est vrai, alors, il y a d'autres composantes de l'inflation, notamment l'immobilier qui exerce des pressions à la baisse. Mais, alors, attendez, j'ai pas fini, je reviens là-dessus. Mais effectivement, lorsque vous regardez, donc, alors, Trueflation remonte. Trueflation remonte depuis le début du conflit, ça reste sous contrôle. La question est, comment va se comporter Trueflation une fois le conflit terminé ou une fois un cessez-le-feu? Si Trueflation, 4 mois après un éventuel cessez-le-feu, se maintient là, c'est mort. L'inflation officielle va rebondir. D'ailleurs, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous dit que dès le mois de mars, on remonte à 3,16. Là, il est à 2,5. Hein. Il est à 2,5. Là, déjà maintenant, avec déjà la remontée de l'inflation temps réel, avec déjà plus de 5 semaines avec des prix de l'énergie élevés, l'algorithme de la Fed de Cleveland nous dit déjà on passe de 2,5 à 3,16. Donc le temps joue complètement. Donc, y a plein de questions à se poser, plein de questions fondamentales à se poser immédiatement. Après une éventuelle amélioration de la situation géopolitique, parce que la vraie question... Cette remontée des taux d'inflation va-t-elle modifier de manière durable les anticipations de politique monétaire de la Fed et de la BCE. Et regardez où en sont actuellement, selon l'outil CME FedWatch Tool, basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux US, le marché n'attend plus de baisse de taux avant octobre 2027. Je vous rappelle que la Fed était censée baisser les taux en juin 2026 avec l'arrivée de Kevin Warsh. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, difficile de se dire je reviens à l'achat, même si c'est la paix, avec ça. Difficile. Ah, vous voyez, donc les choses seront quand même beaucoup plus complexes que la simple aspect géopolitique. Alors maintenant, quand revenir à l'achat sur le plan de l'analyse technique? Alors déjà, on a du boulot d'un point de vue fondamental. Là, j'ai essayé de faire, d'un point de vue technique, je pourrais avoir 20 différents angles d'approche. Donc bon, je vais à ce qui me paraît le plus important. Le pourcentage de cash chez les géants, l'indicateur ultime de la fin d'un bear market. Depuis le début du conflit, la dernière étude de la BofA montre que la part du cash chez les gérants remonte. C'est logique. La part du cash chez les gérants, elle évolue entre, historiquement, 3, 4 et 6 à 8 maximum. Les fins de bear market, c'est lorsque la part du cash chez les gérants commence à dépasser 5 et 6%. Fin du bear market Covid, il y avait 5,9% de cash chez les gérants en moyenne. Fin du bear market de 2022, 6,3% de cash chez les gérants. Là, depuis le début du conflit, on est monté de 3,3 à 4,3. Ça date de mi-mars. Donc, la prochaine étude est publiée en avril. Je pense qu'on sera autour des 5. Ça va être majeur. Honnêtement, la prochaine étude de la BOFA, elle est majeure. Si la part du cash chez les gérants revient dans cette zone-là, nous allons commencer à retrouver des conditions pour envisager de repasser sur les actifs risqués en bourse. Là, au contraire, bah, du coup, là, c'était le plus bas historique. Juste avant le conflit, bah, c'était un beau signal de vente. Donc, premier indicateur majeur, la part du cash chez les gérants doit remonter un peu plus haut avant d'envisager de revenir à l'achat. Deuxième condition technique avant de revenir à l'achat, naturellement, il faut des signaux techniques baissiers sur le pétrole et sur le gaz. Alors là, honnêtement, je ne vous apprends rien. J'ai couvert le sujet dans les dernières émissions Fast and Forex. Le seuil, $80, pourquoi? Parce que en dessous, c'est là où c'est inflationniste. C'est au-dessus, c'est inflationniste par rapport à 2025. Alerte rouge entre 80 et 92. Choc inflationniste au-dessus de 95. Pour moi, pour revenir à l'achat sereinement sur les actifs risqués en bourse, il faut repasser sous $80 sur le pétrole brut US. Et il faut repasser sous 56 euros, sous 56,60 sur le TTF, qui est le contrat gaz qui fait référence pour l'Europe. Donc ça, c'est la base, si vous voulez. Parce que rappelez-vous, là, pour l'inflation, il faut déjà, est-ce que c'est pas trop tard, mais il faut déjà que le prix de l'énergie revienne bas. C'est le temps qui compte. Si malgré l'amélioration de la condition géopolitique, le prix de l'énergie se maintient à un niveau trop élevé encore plusieurs semaines, il y aura un impact sur les taux d'inflation. Cet impact rend impossible, sauf explosion du chômage, des baisses de taux de la Banque Centrale. Et si la Banque Centrale baisse ses taux parce que le chômage augmente mais que l'inflation est trop haute, c'est pas bullish non plus pour le marché action. Donc, mais c'est la base. Retenez, le pétrole doit repasser sous 80, le TTF sous 55. C'est la base pour revenir à l'achat, donc plus sereinement sur pour revenir à l'achat sereinement sur les actifs risqués en bourse. Ensuite, troisième condition technique avant de revenir à l'achat, un repli du spread entre le Brent et le WTI. Donc ça, c'est un indicateur, un baromètre du risque majeur. C'est un baromètre du risque majeur. Le baromètre, le spread entre le Brent et le WTI. Pourquoi? Bah, le Brent, le pétrole de la mer du Nord, UK, le pétrole dit européen, si vous voulez, beaucoup plus sensible aux événements géopolitiques au Moyen-Orient, il est monté jusqu'à $12 plus cher que le WTI. Alors, il n'a pas dépassé cette bande-là. Là, il retombe, mais il faut un retour à la normale du spread, c'est-à-dire entre 1 et 5. Voilà. Il faut un retour du spread Brent WTI entre 1 et 5 pour revenir plus sereinement à l'achat sur les actifs risqués en bourse. Ensuite, quatrième condition technique pour envisager de revenir à l'achat, bien sûr, un retour sur support des indices boursiers de premier rang. Alors, il faut regarder le S&P 500, on va voir le bear market de 2022, les supports weekly, le secteur de la tech, Nvidia, toutes ces valeurs qui pèsent. Alors, Micron et SKNX, les deux leaders mondiaux avec Samsung, vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, de la mémoire vive IA, bon ça ce sont des tendances haussières sans peur et sans reproche, l'Eurostock 50, indice qui fait référence pour l'Europe, est plein de revenir sur un support, et la bourse du Qatar, eux, ils sont complètement dépendants d'Hormuz. Si vous avez des signaux bullish sur la bourse du Qatar, c'est reparti, quoi. C'est vraiment que là, la confiance revient. Bon, alors on va regarder tout ça, il y a tellement de choses à regarder, mais il pourrait passer 4 heures, mais c'est ce que je vous dis, on ne peut pas y passer 4 heures non plus. Donc le S&P 500, eh bien, le S&P 500, je pense que, alors, déjà, première chose, sur le plan, ce qui sera un signal bullish, c'est de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Repasser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, redonne le même signal ici que mai 2025, c'est reparti. On a fait un premier objectif. Le support qui serait parfait, mais là, c'est si vraiment il y a davantage de sell-off, c'est de revenir à 6160, l'ancien record historique. Après, moi, je regarde les horizons de temps weekly et je note que nous ne sommes pas loin du Kumo weekly sur le S&P 500. Nous ne sommes pas loin du Kumo weekly sur l'indice sectoriel de la tech qui lui corrige depuis octobre. Et ça, franchement, là, si on revient sur ce niveau-là, sur l'indice sectoriel de la tech, c'est parti, faut y aller quoi. Là, à ce moment-là, c'est vraiment intéressant de revenir à l'achat. Les indices européens, franchement, on se dit que bientôt, faudra peut-être. C'est intéressant. Le drop ressemble énormément au drop de la crise commerciale. Vous avez ici l'Eurostock 50 qui fait référence pour les actions de la zone euro. On revient à nouveau sur le Kumo weekly du système Ishimoku, qui est un beau support tendanciel. Bon. Alors il y a voilà une condition, surtout ces indices boursiers, la condition c'est de revenir sur les supports weekly et de redépasser des résistances. C'est pour moi un redépassement de la moyenne mobile à 200 jours. Quand j'enregistre la vidéo, le marché essaie de le faire là. Ça pèse, c'est un bon signal. Alors il y a une autre bourse ici qui est intéressante, c'est la bourse du Qatar. Pourquoi? Bah parce que la bourse du Qatar, bah, le Qatar pour le coup, eux, le GNL, ils ne passent qu'à travers Hormuz. Si vous avez un signal bullish sur la bourse du Qatar, si le marché arrive à tenir ce support et à rebondir et à dépasser les résistances ici, c'est vraiment que la confiance revient. Donc sur TradingView, c'est QEAS, la bourse du Qatar. Si vous avez un redépassement de la moyenne mobile à 200 jours, elle fait référence chez les institutionnels, sur l'indice phare de la bourse du Qatar, c'est vraiment que la confiance revient sur les actifs risqué, c'est vraiment que la confiance revient sur les actifs risqués en bourse. Alors après, oui, effectivement, il y a des, je vous ai beaucoup parlé notamment donc de SK Inix ou encore de SK Inix. Je vous en ai beaucoup parlé. Je vais la mettre ici, voilà. SK Inix en Corée. Ah, ça fait partie des valeurs qui sont... Vous savez, ça sont des tendances haussières sans peur et sans reproche, ce côté en Corée. Encore Micron, vous êtes là sur des tendances haussières tellement structurelles qu'en fait, peu importe l'actualité géopolitique, ce sont des valeurs qui résistent à l'actualité géopolitique. Et on se dit que c'est même dommage parce que ces valeurs qu'on a tous envie d'acheter, on attend tous des corrections pour se positionner dessus parce que la pénurie de mémoire vive IA, c'est jusqu'en 2030... Bon, bah même en phase de choc géopolitique, ça veut pas corriger. En tout cas, donc, des indices boursiers qui réagissent sur des niveaux de support majeurs. Un niveau de survente extrême, condition pour revenir sereinement à l'achat, il faut atteindre un niveau de survente extrême. Prenez par exemple l'horizon de temps weekly, le RSI weekly. Eh bien, là, vous voyez donc, ce fut la survente extrême au moment de la guerre commerciale. Là, le RSI Weekly est ici. Donc, on est en zone intermédiaire. Là, vous avez la divergence haussière de la fin du bear market de 2022. Et là, la survente de la crise Covid. Un signal bullish, c'est redépasser 50. Donc, si le RSI Weekly du contrat futur S&P 500, qui est le contrat le plus tradé du monde au sein de la finance occidentale, redépasse le niveau des 50 sur le RSI Weekly, c'est un vrai signal de retour à l'achat. Il faut des conditions de survente extrêmes. Lorsque vous regardez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on n'est pas passé loin. Hein. On est tombé à seulement 22% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, vous avez des bottoms importants de séquences connues du passé, notamment la crise commerciale. Alors, on n'est pas entré dans la zone extrême basse, mais pas loin. On voit que parfois, c'est des points où le marché peut rebondir. Effectivement, on se retrouve quand même fin mars sur des niveaux où la survente est là. Elle n'est pas extrême. Il y a de la survente. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ouais, un certain nombre de paramètres. Je dirais que sur le plan technique, il faut dépasser des résistances. Et je regarde beaucoup, moi, pour ça, la moyenne mobile à 200 jours. C'est vrai qu'en termes de survente extrême, on peut voir que le positionnement des investisseurs particuliers, le pourcentage de bear a atteint 52%. Donc, on n'est pas loin du plus haut de l'année à 61%. Ce sont des conditions qui tendent à devenir extrêmes en termes de positionnement baissier. C'est souvent à partir de là qu'un bottom peut commencer à se, un bottom peut commencer à se former. Décassure de support sur les taux obligataires, ça c'est la base. Donc ça, je vous ai. Alors honnêtement, si je devais retenir trois signaux qui comptent. Le premier, il faut que le pétrole passe sous 80 $, que le contrat de gaz européen TTF sous 55. Et il faut obligatoirement, et là j'insiste, pour revenir sereinement à l'achat, il est impératif de voir le taux obligataire américain à 2 ans repasser sous le taux de la Fed. Pourquoi? Le taux obligataire à 2 ans, celui qu'anticipe le mieux la politique monétaire de la Fed. Le taux de la Fed à 3,75. Lorsque le taux obligataire à 2 ans est au-dessus de 3,75, c'est que le marché anticipe des hausses de taux. Pourquoi? Parce que plus d'inflation est donc pas possible et donc faut lutter contre l'inflation en lien avec le prix de l'énergie. Si vous avez un signal technique, une cassure des 3,75, si le taux obligataire américain à 2 ans, regardez-le sur TradingView, son code c'est US02Y. Vous avez tous les codes ici en watermark, US02Y. Si le 2 ans américain repasse sous 3,75, si le 2 ans américain repasse sous 3,75, c'est un signal vraiment bullish, c'est-à-dire que le marché se repositionne dans une perspective de baisse de taux. Et là, c'est reparti, c'est bon, on repart, on repart. On repart. Comme l'armée française en 1870 contre la Prusse qui s'est fait exploser d'ailleurs. Donc, c'est pas forcément un bon exemple. Bon. Donc, c'est peut-être même le signal technique le plus important à obtenir avant d'envisager de revenir à l'achat. Alors, bien sûr, je termine par une condition qui fait qu'on peut revenir vraiment en mode serein. Rappelez-vous la valorisation avant cette histoire d'opération militaire. Avant ce conflit, on n'arrêtait pas de vous parler de marché qui est cher, qui est cher, qui est cher, qui est cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel impact? Bah, il est moins cher. Regardez comme c'est intéressant, le PE Forward. Le PE Forward qui était revenu à son record de 2021. Il est quasiment revenu à sa moyenne des 5 dernières années. Donc là, effectivement, d'un point de vue de la valorisation, ça devient un peu plus confortable de se dire que peut-être, pourquoi pas, commencer à revenir à l'achat. Alors, chers amis, d'après vous, parmi toutes ces conditions géopolitiques, techniques et fondamentales, quelles sont les plus importantes avant de revenir à l'achat sur les actifs risqués en bourse? Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.